Chers auditeurs de Radio Sud, bienvenue de nouveau. On est toujours au Festival du Conte, toujours la 37e édition. Et alors là, nous sommes avec Annie, qui, pour certains spectacles, donc, fait la traduction en langue des signes. J'ai toujours un peu peur de dire langage, parce que quand on dit langage, elle se fâche. Rotterdam, milliard de tête en polypropylène expansé, dit-elle. Elle signe tout ça. Et non, je plaisante. Donc, notamment, il y a un spectacle avec Muriel Durand. Hein. Et voilà, on se posait la question pour apprendre la langue des signes. Comment est-ce qu'on fait ?
Pour apprendre la langue des signes, eh bien, on peut suivre les cours de promotion sociale parce qu'elle est enseignée uniquement promotion sociale, et comme les cours d'anglais, néerlandais, voilà.
Et comme une autre langue, combien de temps est-ce qu'il faut pour pouvoir commencer à comprendre ce que les autres signes et... En moyenne,
comme,
je veux dire.
Oui, hein. Comme toutes les langues, hein, je dirais. Il y a la langue des signes de base qui permet de parler de la vie quotidienne. Mais si on va aller plus loin, ben, on doit faire, on doit monter de classe. Et voilà, donc je dirais au minimum 5-6 ans pour avoir quand même un bon bagage. Et puis, oui. Il faut pouvoir la parler avec des personnes sourdes. Parce qu'il n'y a pas un pays des sourds où on peut aller pour s'entraîner. Donc,
il n'y a pas encore de surdistance.
Non, on doit rencontrer les gens.
D'accord.
Mais d'un autre côté, on les trouve partout. Donc, c'est leur pays un peu partout. Donc, d'un côté, c'est
oui,
pas
c'est
plus facile
fait.
De les...
Il y en a peut-être dans votre rue, il y en a peut-être dans la famille, il y en a peut-être dans votre village. Donc, il ne faut pas hésiter à la rencontre des gens et pouvoir échanger.
D'accord.
Et je disais juste en introduction, c'est vrai qu'au départ, les gens qui suivaient, j'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe, mais les gens qui suivaient ces cours, c'était surtout des gens qui avaient des connaissances, amis ou de la famille qui avaient besoin de parler le langage des signes, de la langue des signes pour, pardon, oui, je me suis fait frapper, la langue des signes pour communiquer avec leurs proches. Alors que maintenant, je le disais, moi-même, j'ai deux connaissances qui n'ont pas de famille proche qui utilisent la langue des signes. Et pourtant, voilà, ils avaient juste envie d'apprendre une nouvelle langue. Et ils se sont dirigés vers la langue des signes.
Mais oui,
c'est un peu une nouveauté.
Pas. Parce que, bon, on apprend l'anglais pourquoi ? Pour voyager, pour pouvoir se débrouiller. Mais on peut aussi apprendre la langue des signes simplement par curiosité, pour entrer dans ce monde qui est en fait... un peu différent, parce que la langue des signes, on doit se regarder pour communiquer. On ne peut pas dire « mon regard va aller voir par la fenêtre pendant que l'autre me parle », non. C'est parfois la petite difficulté.
Ok. Est-ce qu'il y a une dimension de lecture sur les lèvres aussi, non ?
Oui, ça c'est autre chose.
Ah, mais malgré tout, le regard n'a rien à voir avec le fait de devoir regarder...
C'est autre chose, parce qu'apprendre à lire sur les lèvres, c'est une autre méthode. Ce n'est pas la langue des signes.
Ok, d'accord. Entre-temps, Muriel nous a rejoint. Hein.
Bonjour.
Alors, donc voilà, vous faites un spectacle. En fait, tu fais un spectacle et toi, tu l'as traduit en langue des signes. Comment est-ce que c'est arrivé, cette idée de dire, tiens, on va... Parce que tous les spectacles ne sont pas traduits. Hein.
Non.
Et comment est-ce que c'est parti ? Comment vous êtes rencontrés et puis prendre cette décision ? Tiens, ce serait bien de signer le spectacle.
Bah, c'est via le festival, en fait. C'est Clément qui m'a contacté en me demandant, bah, tiens, tu sais qu'il y a une traductrice en langue des signes. Je dis, oui, je vois très bien qu'il y a Annie et qui est célèbre à Chigny depuis un mémorable soir avec Luigi Riganese. Tu t'en souviens ? Et en fait, bah oui, je dis oui tout de suite parce que ça m'arrive en fait à... au moins une fois par an de compter en étant traduite parce que je vais une fois par an à la fête de la musique de l'IRSA, l'Institut Royal des Personnes Sourdes et Aveugles
à Bruxelles,
oui. Donc ça fait quelques années que ben, je compte pour leur fête de la musique et que je suis traduite en langue des signes et donc ben, j'avais envie de faire l'aventure avec Annie. Je trouve ça chouette, je trouve ça riche. On raconte aussi d'une autre manière. On est obligé d'être beaucoup plus clair et beaucoup plus précis parce que la culture sourde, elle est différente. Il faut être beaucoup plus concret. Et donc, je ne dis pas de bêtises.
Non, on en parlait justement tout à l'heure. Là. Ouais.
Et en tant que personne entendante, je trouve que c'est riche d'apprendre de la culture sourde. Et moi, en tant que conteuse, ça m'a permis de progresser aussi. J'ai travaillé aussi avec Evelyne De Voist, qui est traductrice et conteuse en langue des signes en région Bruxelles-Capitale. Et c'est vrai que ce travail en commun permet de faire évoluer le conte et dans un sens positif, puisque c'est des images, le conte.
Et est-ce que tu as dû retravailler ton texte ?
Non. J'ai dû l'écrire. J'ai dû le mettre par écrit parce que je ne l'avais pas par écrit. C'est un spectacle que j'ai construit complètement dans l'oralité. Et Annie avait besoin du texte, donc j'ai fait l'exercice de tout mettre par écrit.
D'accord. Littéralement, ce que tu dis, donc.
Oui.
Ok. Et toi, sur cette base-là, alors, comment est-ce que tu travailles ?
J'ai les textes, je vois les textes, je dois chercher, je dois l'adapter en langue des signes, je mets des annotations à côté. Si, par exemple, il y a vraiment des choses que je ne comprends pas, comment je pourrais les faire ? Alors là, je rencontre la personne ou par écrit à l'avance pour dire, mais tiens, comment est-ce ? Il y avait une histoire avec les pouces.
Oui.
Je me dis, bon, comment est-ce que les pouces vont se coucher ? C'est bête. Mais il y a une grand-mère en langue des signes, donc ben voilà.
Avec l'enjeu que moi, c'est un spectacle 18 mois, 4 ans. Et donc, en fait, c'est un spectacle qui est basé sur les jeux de doigts.
D'accord,
donc
je
joue énormément avec mes mains. Donc, on va être côte à côte et faire des choses différentes avec nos mains, en fait.
Ok. Ah oui, parce que toi, donc tu fais une histoire avec.
J'utilise les doigts.
Oui, mais toi, tes doigts, ils sont occupés à traduire.
À traduire l'histoire que je fais avec les doigts.
Ah oui, c'est
mais
compliqué.
Mais en faisant d'autres gestes.
Oui, donc mes doigts vont suivre ses doigts, mais peut-être d'une façon un peu différente.
Et en termes d'émotion, est-ce qu'on peut exprimer. Parce que la langue française est une des langues les plus riches. Est-ce qu'en langue. Une des plus riches, si, quand même. Si on prend l'anglais, par exemple, c'est beaucoup moins riche au niveau vocabulaire. Si. En tant qu'ancien prof de français, ça je l'affirme. D'ailleurs, dans certains tribunaux, je ne sais plus dans quel tribunal international, c'est la langue française qui a été sélectionnée justement parce que la richesse de la langue était là, contrairement à l'anglais.
Je pense que c'est un autre débat, on ne va pas le
faire. Oui, bon, voilà. Mais... Soit.
C'est les Français qui disent ça.
Non. Mais bon, soit. Est-ce qu'on arrive à traduire toutes les émotions, tout le vocable français, ici en l'occurrence, en langue des signes, ou est-ce que ça demande une adaptabilité spécifique ?
Toutes les émotions, on peut les transmettre sans problème. Concernant le vocabulaire, parfois on doit faire des recherches, parfois on doit trouver des synonymes parce que le signe n'existe pas encore dans le dictionnaire, donc voilà.
Et c'est aussi une langue qui évolue, qui s'enrichit, comme un peu dans les dictionnaires francophones, on a toujours une nouvelle version. C'est la même chose pour la langue des signes ?
Tout à fait, parce que la langue des signes, en fait, n'est pas reconnue depuis très très longtemps. J'ai peur de dire des bêtises, 2011, je crois.
Oui, donc c'est relativement neuf.
Enfin, c'est récent,
ouais,
oui.
Officiellement reconnue. Donc, la langue des signes a été interdite pendant 100 ans, de 1880 jusqu'à 1980.
D'accord.
Après, elle a été reconnue officieusement. Il faut dire que pendant cette interdiction, chaque communauté, je ne dirais pas province, mais chaque communauté de Belgique, par exemple, a développé sa propre langue des signes en cachette, puisqu'elle ne pouvait pas être parlée. Donc maintenant, on essaye un peu, enfin, il y a tout un groupe qui travaille à essayer de rassembler ces signes pour en faire une langue commune. En gardant chacun son accent, je dirais. Mmh. Donc c'est un gros travail. Hein.
Quand tu parles de dictionnaire, c'est avec les dessins, j'imagine ?
Avec des dessins, oui.
D'accord,
oui. Oui, tout à fait.
Ou bien des vidéos, parfois ? Ben non, pas dans un dictionnaire, mais...
Parfois, ça peut être
en vidéo.
Parce
qu'il y a aussi le mouvement, il n'y a pas
oui,
que
oui,
les...
Oui, si, oui, si, si, si. Il y a les dessins, et puis il y a un dictionnaire en ligne, donc voilà.
Alors, Muriel disait que la langue des signes est très directe, alors tu en parlais aussi, hein, on n'utilise pas des métaphores, c'est très très concret. Quoi, hein.
C'est très concret.
Et je crois que ce qui est chouette, en tout cas, pour revenir au conte et à la langue des signes, c'est quand on devient partenaire de jeu. Bon, là, c'est vrai que c'est dans la rapidité. Annie, tu traduis plein de spectacles, mais même dans cette rapidité, c'est de ne pas considérer Annie comme une traductrice, mais comme une conteuse en langue des signes à côté de nous, en fait.
D'accord.
Et voilà, en tout cas, d'être dans j'ai l'impression que ça va au-delà d'une simple traduction. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... voilà.
Oui, parce qu'en fait, ici, quand c'est Clément qui s'en occupe, hein, contacte un peu les conteurs, il demande est-ce que vous êtes d'accord de travailler avec l'interprétation en langue des signes. Donc, il faut quand même, au départ, une volonté du conteur d'être à l'aise pour traduire pour être avec quelqu'un qui va gesticuler, je dirais, à côté. Donc ça, c'est hyper important.
Oui, mais en plus, tu es hyper expressive dans ton visage, etc. Donc c'est aussi... Enfin, je trouve que c'est vraiment un enrichissement au spectacle.
Parce que pour répondre à l'autre monsieur, là, tout à l'heure, en fait, toutes les émotions, elles passent par le signe, mais elles passent aussi par le visage.
Mmh. Il y a, c'est quasi un jeu d'acteur, en fait, quelque part.
Enfin... Ça fait partie de la grammaire de la langue des signes,
oui,
en fait, j'ai l'impression.
Tout à fait, oui.
On parle avec son corps, ses expressions... Mmh. C'est en 3D. Oui. D'ailleurs, il y a même Oliver Sack, un neurologue qui a écrit L'œil de l'esprit et qui explique que les connexions neuronales des personnes qui ont comme langue maternelle la langue des signes se font pas de la même manière, en fait.
D'accord. Oui, c'est logique, en fait. Hein.
Donc, il y a vraiment toute une grammaire et toute une manière de voir le monde qui est différente, me semble-t-il. Si je dis des bêtises, tu m'arrêtes.
Non, ça va.
Je l'ai lu dans un bouquin, donc ça devrait aller. Voilà. Mais
Alors, vu qu'on a la radio, on ne va pas lui demander de signer la conversation. Ce n'est pas très radiophonique. Mais voilà, Muriel me fait signe qu'elle doit y aller. Parce que
je dois aller monter dans 45 minutes. Je dois aller monter mon décor. Donc je vais
vous laisser. C'est très gentil d'être passé.
Merci.
Aussi, Annie, de venir un peu expliquer. Donc, et surtout, bien retenir que c'est une langue.
Et pas un langage.
Un langage.
Voilà. Merci à vous deux.
Merci.
Et bonne continuation.
Bon festival.
Merci à vous.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Y'a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y'a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y'a pas de recette, toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y'a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner cet humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser, exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson? J'ai connu une sorte de brouillard, et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi, sans vraiment le prévoir, naturellement ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire, et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Ce matin, aux petites heures, au début de la radio, il y avait aussi un trio d'artistes invités par des confrères français. Et on s'est dit, bon, ils l'ont fait à leur manière, mais on a quand même des trucs à leur dire. Et donc on s'est dit, on va vous réinviter. Bienvenue à nouveau, Christine Normand. Bienvenue, Marie-Thé.
Merci.
Ben voilà, on s'est
Hello,
dit...
Hello, Karine.
Bonjour, Karine.
Nathan, toujours à la technique délogée de son spectacle pour pouvoir nous accueillir haut la main. Et puis Xavier qui veille aux petites choses derrière. Ouais, on s'est dit quand même, on a encore des choses à se raconter. Toujours énormément de choses parce que vous êtes conteuses toutes deux, mais pas que. Vous avez beaucoup de choses à... Vous voyez énormément de choses, vous participez à beaucoup de projets, vous êtes très présente sur les scènes et vous avez un savoir, une mémoire, une connaissance de tout ce qui se joue, qu'on aurait presque envie de vous demander à chaque fois votre feedback. Et alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce truc ? Et qu'est-ce que t'as pensé de ce truc ? Et puis, bon, on le fait un peu en off, on ne va pas tout raconter ici, mais vous êtes aussi artiste qui défendez vos propres projets, vos propres spectacles. Vous travaillez à deux très souvent,
ouais.
Et c'était chouette du coup de pouvoir vous entendre toutes les deux. Et de vous entendre notamment, Marie, autour du spectacle que toi, tu as assuré hier et auquel j'ai pu assister. Et d'avoir un petit retour là-dessus, te donner un peu un avis, te partager tes impressions et avoir Christine auprès de toi qui était là au premier rang et comme très souvent. Donc merci déjà pour cette proposition de spectacle que j'ai vue hier. Ça s'appelle « Mon rêve ira volant ».
Oui.
Et déjà dans tout ça, il y a... Il y a plein de V, il y a plein d'ailes qui s'envolent, que ce soit dans la forme de ce V, que ce soit dans les sonorités de ce titre. Et j'ai l'impression que ça parle un petit peu de toutes les images que tu peux nous projeter, les images mentales et les images sonores aussi qu'on reçoit à travers ce spectacle. Peut-être je vais te donner la parole en premier. C'était un spectacle proposé dans des conditions pas simples, parce qu'il faisait genre 40 et des degrés dans cette salle. Et que la forme de ton spectacle, son propos, ton énergie a permis que ça passe vachement plus simplement que sur d'autres projets. Pourtant, je pense que c'était l'heure la plus chaude. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est qu'une histoire de chaleur ou est-ce que tout était en éveil, la chaleur est là, les sens sont en éveil, on entend tout fort, on voit tout fort, on ressent tout fort, tout est énorme. Et pourtant, ça n'a pas du tout été désagréable. T'es venu nous chercher à des endroits de pétiment, à des endroits d'envolée, à des endroits où c'était très aéré et ça nous a fait énormément de bien. Donc merci pour ça. Et puis ce format, c'était un spectacle, mais il y avait trois histoires,
oui.
Au moins.
Oui.
Et d'autres choses dedans, autour, avant, après. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur l'intention de ce rêve volant quand tu as créé cette proposition ainsi agencée?
En fait, moi, je suis pas très forte en dramaturgie, donc je peux pas dire vraiment que quand je commence, j'assemble un peu les histoires ou les chansons comme ça vient. Et puis c'est au fur et à mesure ça qui est génial, enfin ça que je trouve chouette dans le travail et dans le fait de faire les représentations, c'est qu'au fur et à mesure des représentations ou du temps qui passe, il y a quelque chose, les choses se déblayent un peu. Donc le fil apparaît, peut-être le fil qui était là quelque part, mais je ne me rendais pas vraiment compte, ou qu'il n'était peut-être carrément pas tout à fait là. Le seul fil qui était là, c'était mon envie, moi, de, comme ça, un peu enfantine, quoi, de réunir tel ou tel, de faire « Oh tiens, je vais faire cette chanson-là, après cette histoire-là ». Puis parfois, je me trompe, et parfois, si je présente à Titine, elle va dire « Ah, et si tu essayais cette chanson-là, après ce conte-là, ou fais un peu l'inverse, ou elle peut, par exemple, je dis Christine, elle, on se connaît bien, et c'est vrai qu'et encore récemment, encore il y a 3 jours, je lui ai représenté le spectacle comme il était là, plus ou moins hier, et pouf, elle réussit, elle va trouver le petit maillon que, ou la petite chose que si je mettais un petit peu en évidence, tout d'un coup, tout le fil apparaîtrait. Et ça, c'est évidemment très précieux d'avoir un œil et une écoute comme celle de Christine, qui a aussi une oreille hyper musicale. Et donc, comme dans mon travail, il y a aussi la musique qui est fort présente, mmh. et le rythme et les sonorités, et cette capacité de se mettre fort au service de la manière que la personne a de travailler, et du coup de faire les retours qui sont très hyper appropriés, quoi. Mmh. Et donc par rapport vraiment, par exemple, même le titre, j'ai gambergé avec ce titre. Il a changé 10 fois, je crois. Et puis au début, c'était fagot d'histoires et de chansons. Et puis c'était juste, je ne sais plus très bien quoi. Et puis ça m'est venu, le titre, un peu avec un jeu de sonorités comme ça.
Il y a des mouches qui volent.
Avec des sonorités. Et puis finalement, voilà, c'est venu comme ça. Et ça m'a aidé. Je me rends compte que petit à petit, ça m'aide parce que les personnages reprennent. Ça m'aide à rêver, en fait. Voilà, je crois que ça m'aide à rêver, moi, dans mes histoires, mmh. ce titre-là. Mais j'ai pas fait exprès. C'est d'abord bêtement un petit peu avec les sonorités, quelque chose qui m'amusait, quoi.
Ouais.
Voilà.
Alors tu dis Titine, c'est Christine Normand. Hein. C'est la personne. On parle bien de la même personne qui est assise à côté de toi. Titine, qu'en penses-tu quand on te dit comme ça? Ben toi, en fait, t'es aussi super sonore, t'es aussi musicale, et ton regard dramaturgique, il nourrit aussi le travail de Marie, finalement.
C'est chouette de découvrir ça chez moi, parce que c'est aussi au contact avec Marie que je me suis dit, ah mais oui, c'est la sensation du son raconte quelque chose. Moi, je sais que au début, j'étais plutôt littéraire, donc donc c'est... Je captais les images, je sais que je construis bien les histoires, etc. Mais le fait que ce soit vivant, c'est très mystérieux, en fait, quand on écoute un conteur ou une conteuse, tout à coup, c'est vivant. On est dedans, on est dans la bulle, il y a quelque chose qui se passe dans la sensation du corps, on parle d'âme à âme. Et moi, j'aime bien écouter les gens et me dire, tiens, là, ça marche, qu'est-ce qui m'a provoqué ça? Et donc, ce mystère-là, ce passage-là, ça me passionne, en fait, autant quand je travaille mes histoires à moi ou quand je travaille par exemple avec Marie en l'écoutant. Et Marie, elle a cette capacité, et donc que j'admire beaucoup, c'est d'être toujours dans le présent de ce qui se passe. Donc chaque son qu'elle fait est présent, donc il y a quelque chose dans son corps qui est présent, il y a quelque chose de, elle n'anticipe pas sur un récit qui irait un tout petit peu plus vite qu'elle. Si on est trop dans sa dramaturgie, ben nous, on se dit, ah, je dois arriver à ce point-là. Et donc, du coup, on va parfois un peu plus vite que son histoire. Mmh. Et si on va plus vite que son histoire, ben, on ne la laisse pas vivre, on ne la laisse pas se déployer. Et donc, c'est ce travail-là d'écoute, moi, qui me passionne assez. Et Marie, elle m'apprend, en tout cas, d'ouvrir mon oreille à ça. Et du coup, j'apprends aussi beaucoup en travaillant avec elle, parce qu'on a des spectacles communs. Que ma parole aussi, tout d'un coup, elle est dans la musicalité exactement de l'histoire. Et c'est aussi en faisant, parce qu'on faisait toutes les deux les masterclass avec Michel Hindenock, lui il nous apprend vraiment ça. Mmh. Lui il nous écoute et on dirait qu'il fait attention qu'à ça, en fait, si on est au rythme de l'histoire, oui. si on entend le son de l'histoire. Donc, par exemple, si on écrit quelque chose, et comme moi, j'aime bien écrire, si notre formule est plus longue, très jolie, mais qu'elle est plus longue que l'action, ben, l'action, elle est passée, on est encore dans notre formule. Mmh. Et donc, c'est ça qu'il appelle littéraire. Et Marie, elle n'a jamais ça. Elle n'est jamais dans la formule littéraire. Elle est toujours dans... Hop, il y a quelque chose qui surgit dans son image. Et hop, il y a quelque chose qui surgit dans son son, dans son corps. Et ça, c'est... Alors...
J'ai trop de mots parfois, donc il y a aussi un travail des...
Trouves qu'il y a trop de mots?
Oui, parfois, il faut... Enfin, on a tous notre travail à faire, ouais. Et moi, je sais beau comment tu dis, enfin, tu décris bien, Christine, mais chacun, moi, je dois parfois élaguer les mots, parfois j'ai des mots qui sont un peu là, bon voilà, mais et puis qui c'est... Et je trouve ça vraiment chouette quand tout d'un coup, ça s'élague, tout d'un coup tu dis, ah chouette, je peux laisser tomber cette petite partie-là, cette petite...
Ouais.
C'est chouette.
Moi, je trouve que c'est ta force, c'est qu'il y a très peu de mots, et beaucoup d'images en très peu de mots.
Ça, c'est le travail. Hein.
C'est tout à fait.
Et que c'est le travail de Marie, d'après de ciseler.
Ouais, et ce travail de caviardage, en fait, hein, des d'épures et de caviardage, et ben, tu le fais aussi au niveau sonore. Et c'est ça que moi, je trouve fascinant, comme fasciné du son. C'est que dès tes premiers mots, dès tes premiers trucs, tu lances ton histoire. Une fois qu'on est dedans, tu ne nous fais pas un petit fade-out qu'on aurait pu faire, un effet de voix où tu baisses le son. Non, tu vas filtrer les fréquences. Et donc, tu sors le début de ton spectacle, non pas en baissant le son de la voix, mais en choisissant de couper les basses, de couper les aigus et de laisser que des médiums et puis les sifflantes. Et ça, c'est un effet sonore qu'on fait sur une console de son qui n'est pas juste on baisse le son. C'est on a travaillé sur les fréquences. Et donc déjà, tu as un spectre où tu travailles sur trois bandes, ce que d'autres ne font pas. Mmh. Et donc ça veut dire que dans cette musicalité-là...
Génial, c'est elle qui devrait te faire des retours.
tu places et ta voix et ton instrument et tes jeux de mots sur trois bandes de fréquences. Ça veut dire que tu peux placer tes personnages à plein d'endroits. Et ainsi, sur une même phrase épurée, tu fais sauter d'une portée à une autre, d'une ligne à une autre, tes personnages et tes histoires. Et tu sautilles comme ça, comme des oisillons sur des fils électriques, tu sautilles de l'un à l'autre, et donc tu n'as plus besoin de beaucoup de mots puisque tu as placé tes bandes. Je trouve ça d'une puissance incroyable.
C'est marrant, d'accord.
mais c'est sans doute ça aussi qui fait que Marie, quand elle elle a, par exemple, elle fait l'histoire de la femme et les temps, c'est ça ?
Oui, la vieille et les temps.
C'est un autre.
Oui, que j'ai entendu.
Voilà. Et alors, la justesse de la musique, tout d'un coup, cette histoire qu'un peu tous les conteurs et conteuses connaissent, tout d'un coup, elle est là, on y croit à fond, quoi. Elle est réinventée, il y a une espèce de poésie pure qui jaillit de ce ne sont plus des images, ce ne sont plus des concepts, ce ne sont plus des symboles, c'est là.
Et des fois, c'est syllabique. Hein. Je parlais de caviardage, mais tu finis des phrases en laissant que les consonnes et c'est OK. Mais moi, je trouve que ça raconte tellement de toute ta partie d'écriture avec le sonore, justement, avec la musicalité, que te permettre de faire un mix harmonique en début de spectacle ou de dire « je vais finir la phrase en enlevant des mots » parce qu'on sait très bien que le cerveau, par exemple, pour ce qui est de l'écriture écrite, retient, tu peux enlever plein de trucs, on le retiendra, on le comprendra quand même, et se dire bah, pourquoi pas aussi à l'oral se dire que finalement on enlève les voyelles, on va comprendre tout autant. Il y a des gens qui vont, on les comprend quand même. Donc on peut se permettre énormément de choses au niveau de l'oralité que tu te permets en disant le but c'est d'enlever un maximum de trucs et on sait que ça va passer quand même. Je trouve que c'est la force de ce que je, voilà, que je retrouve à chaque fois chez toi, c'est que tu te permets de plus en plus de choses au niveau sonore et du coup de trouver des formes d'écriture de l'oralité qui sont au-delà de la musicalité, qui sont l'écriture pure pour moi et qui rencontrent tout ça et qui amènent à toutes ces sensations. Bravo Marie, tu vois,
merci,
je suis un peu groupie.
Merci, dit Karine, dit Christine.
C'est bien dit.
Oui, je suis impressionnée de comment tu analyses, enfin, tu vois, avec le côté des fréquences et tout ça. Je n'avais pas trop pensé à ça, j'avoue, mais c'est chouette. Je suis impressionnée.
Et en même temps, tu parlais d'enlever. Donc, tu vois, ça, c'est le travail que vous faites, de se dire, ça, on n'a pas besoin.
Ouais.
L'image, elle est là, c'est OK, on avance. Ouais. Et du coup, ça permet cette profusion d'images. Quand je parlais de pétiment, c'est que ça claque dans tous les sens, quoi. Et puis, il y a ce travail sur la langue que je trouve très beau aussi, justement dans les sonorités, dans les allitérations, dans le jeu des consonnes, de faire claquer, de faire voler, de faire loloter. Enfin, tu te permets dans l'écriture même du texte aussi que les mots se rencontrent, se chevauchent et racontent encore autre chose eux-mêmes. Et c'est là que la poésie rentre en jeu, je trouve, encore plus dans ces moments d'écriture. Voilà, en tout cas, moi, ça me touche hyper fort. Si bien que je me dis que même à l'écrit, si on devait te lire, tout ça fonctionnerait aussi.
Je ne sais pas.
C'est l'endroit de la sensorialité, je trouve, où vous avez réussi à dégoter un truc, quoi. Et alors, on n'a pas dit un truc essentiel, c'est que oui, tu racontes, mais tu t'accompagnes toi-même en musique. Sur ce spectacle-là, Mon rêve ira volant, tu es avec deux instruments. Souvent, on te retrouve avec ces deux, l'accordéon et le violoncelle, et duquel tu t'accompagnes pendant le spectacle et tu te joues de ces nouveaux compagnons de récit pour leur faire interpréter aussi tantôt des personnages, tantôt des situations, tantôt des humeurs. Ça, c'est aussi ta patte, je trouve, ta marque de fabrique, de laisser l'accordéon finir la phrase, de laisser le violoncelle installer un truc, de laisser le violoncelle installer un truc et te lever, de rentrer dans l'histoire et tu dis « Ah, elle avait une pédale d'effet, ça continue de faire chlouk, chlouk, chlouk. » Et non, on n'avait pas vu que sa petite main continuait à faire chlouk, 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 tellement on a été prise dans ses paroles. Mais pour moi, ça, c'est de la prestigitation. Tu vois, tu caches un truc, tu le vois pas, mais tu tirais toujours sur la ficelle derrière. Il y a ce côté magique comme ça aussi, du coup, qui est dans la mise en scène, dans le dispositif. Ça a l'air hyper bête, mais non, c'est compliqué de raconter et de choper son accordéon et de se le mettre sur les épaules et de faire comme si on jouait pas et pourtant ça joue. Bravo.
Voilà. Mais par contre, c'est hyper simple, hein, ce que je fais à l'accordéon. Enfin, ce que je fais à l'accordéon et au violoncelle, c'est vraiment très simple. Mais c'est vrai, c'est fou comme je ressens que la musique aide à trouver, justement, aide parfois à élaguer quand... Enfin, à élaguer quand il y a trop de mots. Parfois, l'accordéon m'aide. Ah, hein, il y a trop de mots. Ram, ram. Ou je ne sais pas comment... Cette phrase, j'entends bien que quand je la dis, il y a un truc qui m'encombre un peu. Il y a trop de mots, mais je ne sais pas comment réduire. Et en prenant l'accordéon, il m'aide à retrouver le juste rythme comme ça. Mais c'est très simple, ce que je fais souvent. Enfin oui, c'est simple. Je le dis parce que parfois, les gens, ils s'empêchent de jouer de la musique parce qu'ils pensent, ils veulent faire des choses trop belle, quoi, trop compliqué, complexe. Et là, c'est vraiment simple au niveau des accords. Je fais deux accords sur le violoncelle. Je faisais une note, une note pendant tout le... Mais bon, j'aime. Et cette note me fait du bien. Hein. Enfin, ouais. C'est ça que je... Si elle me fait du bien, si... Et là, encore une fois, Christine, qui est donc une... une écoute... Enfin, par rapport au violoncelle, dans une précédente version, il y a trois semaines, j'avais fait une expérience dans l'histoire qu'il y a avec le violoncelle, de l'utiliser moins et de... Enfin, voilà, je faisais un peu des expériences pour un peu découvrir autre chose, quoi. Et c'est marrant parce que c'est vraiment toi, Christine, qui m'a dit, on dirait que ton violoncelle te manque. Et moi, je dis, ben non, pas du tout. Vraiment, il me manque pas du tout. Mais en fait, après, je me suis rendu compte que il me manquait tellement que je n'en jouais plus depuis 15 jours et ça m'arrive jamais, mais jamais. Hein. Donc il y avait un truc que, inconsciemment, je m'étais dit, bon, c'est l'expérience, je ne vais pas plus faire avec le violoncelle, beaucoup moins. Et ben, j'avais plus envie de le prendre dans la vie quotidienne, alors que normalement, je le prends toujours au moins une demi-heure par jour. Mmh. J'y allais quand même forte, quoi. Et c'est vrai que... Et ça, c'est précieux. Enfin, je reviens à ça parce que c'est précieux, comme parfois on fait du mieux pour se guider et à quel point c'est gai d'avoir des oreilles qui parfois nous rappellent, mais souviens-toi que t'aimes ça, faut que tu fonctionnes avec, que c'est une encre quand même la musique, ou que c'est une encre parce que parfois on l'oublie soi-même, quoi.
Voilà. Et je voulais rajouter aussi, parce que c'est vrai que Marie, elle dit c'est simple, mais d'être témoin comme ça d'une parole qui se construit, on voit que quand même d'allier chaque note à la syllabe et de faire résonner les deux, et que l'instrument devient parole à son tour, et que c'est des paroles qui se chevauchent, qui ne doivent pas faire concurrence et tout ça, c'est quand même un travail d'une précision.
C'est de la haute voltige.
Oui,
hein.
Tout à fait. Et ça, c'est vrai.
Tu maîtrises.
Oui.
Peut-être, mais ça m'apparaît pas un travail de comment dire, même si en fait oui, peut-être parfois j'y passe beaucoup de temps beaucoup de temps sans me rendre compte, comme c'est gai, je me rends pas compte que j'y passe peut-être beaucoup de temps, quoi, à préciser des choses, comme pour la fille et les temps, la vieille et les temps, qui est quelque chose qui dure 4 minutes 33 et j'ai passé des heures et des heures et des heures, mais là c'est vraiment très précis. Et
oui, et du coup quand on entend, on a l'impression que c'est tout simple.
Oui, voilà.
Et c'est il se passe quelque chose, mais c'est ça, c'est tout le... Tout d'un coup, il y a une justesse qui se fait, et ça, c'est quand même magique, quoi.
Et c'est du travail, hein, ouais. Comme rappelait Marie. Hein.
Ouais. Oui, tout à fait. Oui.
Tout ce travail pour lequel on n'est pas payé, sauf si on a la chance d'avoir un statut qui nous permettra de ne plus avoir de retraite après. Parenthèse.
Parenthèse.
On rappelle à chaque émission aussi aujourd'hui.
De ce monde qui méprise la culture et les travailleurs en général.
Allez, retrouvons notre ancrage. Tu parlais que le violoncelle fait partie de tes ancres. à toi.
Mmh, oui.
Et c'est ainsi que même s'il ne doit jouer qu'une seule note la même pendant le spectacle à un ou deux moments donnés, tu vas quand même te le trimballer jusqu'à Chigny et l'accordéon et le violoncelle et tout ton couchage pour le week-end. Et ça, ça vaut la peine même s'il ne fallait qu'une seule note parce que c'est celle-là qu'il faut à ce moment-là.
Mais oui, normalement à la base il était là présent aussi dans la dernière histoire, mais pour l'instant je ne sais pas tout à fait. Pour l'instant c'est bien qu'il soit pas là pour m'aider à peut-être à ouvrir quelque chose. Enfin voilà, ça m'aidait qu'il soit pas là. Je maîtrise. C'est un jeune instrument pour moi, le violoncelle. L'accordéon, il fait partie de ma vie depuis longtemps. Le violoncelle, pas. Donc j'ai pas autant de d'aisance avec le violoncelle, quoi. Et donc peut-être qu'à un moment, dans cette dernière histoire, il m'encombrait un peu. Mais du coup, je suis quand même bien contente qu'il soit, qu'on a fait un peu la paix, lui et moi, pour que même s'il fait qu'une note, je suis tellement heureuse. Enfin, il me fait du bien, quoi. Il m'ancre dans. Enfin, j'aime bien qu'il soit là dans le spectacle. Mais au départ, il faisait plus qu'une note. Mais là, je crois pas qu'il est frustré. Ça va. Qu'il soit frustré, ça va.
C'est un violoncelle chez toi, c'est pas une.
Je pense que c'est un. C'est toujours un, hein, non ?
Bah, dans l'absolu, c'est un, mais j'ai des amis pour qui c'est un, mais c'est toujours elle.
Ah.
On a des relations complexes avec ses compagnons de route.
Ah non, moi je pense que c'est quand même un.
Ouais.
Ouais.
Et pour les personnes qui ne savent pas, c'est un accordéon diatonique que
un chromatique.
As... chromatique.
Mais il ressemble à un diatonique.
C'est parce qu'il est très léger, il est fin,
c'est pour
il
ça.
Est très collé
il
à ton
a la
corps.
Tête d'un diatonique. Tout le monde pense qu'il est diatonique, mais il est en bois très léger.
Ouais.
Et voilà, c'est un petit chromatique.
Et il permet d'être un peu comme ça, une excroisse. Enfin, donc d'être très proche de toi et très maniable, un peu comme un troisième bras, un membre à part entière, quoi. Il n'a pas l'encombrement des gros.
Des gros, non. Ouais. Ouais.
Et ça donne plus de mobilité, te dire ok, je le prends, j'enlève, je le remets, même si c'est pas simple.
Ouais.
Quelle affaire. Et alors, tu disais, je sais pas encore, machin, ce spectacle qu'on a pu voir ici, il est naissant, il avait déjà été présenté.
Non, je l'ai déjà fait quelques fois, disons, je dirais 5-6 fois, hein, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Mais pas très souvent, vraiment pas très souvent. Et donc là, c'était un peu exceptionnel que je l'ai fait il y a un mois.
Ouais.
Et ce qui est chouette, ce qui est chouette, c'est qu'entre chaque... c'est un peu merveilleux, mais ça, à mon avis, tu dirais la même chose, hein, Christine, qu'entre chaque fois qu'on a l'occasion de le faire devant des gens, ça s'ouvre. Il y a des choses, enfin, on le retravaille forcément, et ça s'ouvre. Et je trouve ça vraiment assez magique. Parce que même maintenant, même si je suis contente, ça s'est bien passé hier, mais il y a quelque part, je suis déjà curieuse de voir comment il peut encore un petit peu s'ouvrir à certains endroits où je ne suis pas hyper... j'étais un peu à l'aise hier, mais il y a de petits endroits où je me dis « Ah, est-ce que je ne pourrais pas essayer ça ?» Mais parfois, on ne peut pas aller plus vite que le temps, et ça, j'aime bien. C'est obligé de le faire, et puis après, voilà, je vais laisser redescendre, je vais sans doute faire une dépression demain, je me connais, enfin, un petit creux. Et j'ai beau me dire, je me suis envoyé un message pour lundi, que je dois écouter soigneusement lundi, un message à moi-même, me disant « Il y a moyen d'éviter la dépression
!» Souviens-toi comme c'était beau.
Il y a moyen, essaye de faire, même si tu déprimes, essaye de te souvenir que...
Tu demandes à Karine de t'envoyer un message.
Mais je vais l'écouter demain, je vais me souvenir de ce moment-là où on rigole et je sens que je vais déprimer quand même pendant quelques jours. Mais après, quand j'ai fini de vouloir me suicider... Non, c'est pas vrai.
Je prends mon violoncelle.
Et voilà. D'ailleurs, non, je vais le prendre demain pour au moins, même si je fais tout à fait autre chose, continuer à rester là, quoi. Voilà.
Mais pour rebondir à ce que tu dis, c'est vrai qu'il se passe quelque chose quand on a raconté et que ça s'est bien passé, comme ça qu'on est quand même en connexion avec quelque chose qu'on ne retrouve pas dans sa vie quotidienne.
Oui.
Et après, on a une espèce de nostalgie de ces moments où c'est des petits miracles. Quand
oui.
Même.
Oui, oui.
Et comme on dit, les miracles ne durent jamais plus que 3 jours.
Et on a envie de rester... c'est comme quand je t'écoute, toi, Christine, quand j'écoute Christine, elle a une capacité à rendre très préhensibles les ambiances des personnages et les histoires. Et souvent, moi, je repars avec tes personnages pendant 3 jours, ils sont là. Mais donc, je me dis que toi qui vis avec, c'est aussi...
Oui, parfois, il me manque.
Oui, oui. Mais toi, tu arrives à faire ça...
Oui, je les convoque chez moi.
Voilà. Ça, je devrais faire aussi. De, quand elle, elle les convoque chez... Donc tu racontes pour toi, enfin tu,
ouais, je tu me les convoques pour quoi. Moi, je rêve avec eux, comme si je m'asseyais à côté d'eux et que je vis leur histoire.
Je vais essayer de faire ça.
Sorcellerie quand même.
Il y a un moment donné où c'est vivant. C'est très étrange, hein, parce qu'avant j'entendais ça, ça a l'air d'être un peu une formule de conteur, de conteuse. Mais quand on le vit, je ne sais pas comment dire autrement. C'est-à-dire que et ça a une il y a un moment donné où les personnages on peut plus leur faire n'importe quoi ils résistent.
C'est ça. Ouais. C'est que au début t'es habité par tes personnages et après c'est eux qui habitent chez toi.
Exactement.
Débrouille-toi.
Bien résumé.
C'est quoi ton actualité à toi, Christine Normand?
Ben moi pour l'instant je suis en train de faire mon site. Enfin.
Un site internet.
Parce que j'ai quand même beaucoup de spectacles où j'ai maintenant envie qu'ils tournent plutôt que de refaire une nouvelle création. Et sur ce site aussi d'insister sur le fait que les questions d'accessibilité à cause de la chaise roulante peuvent se régler aussi en me prenant contact avec moi. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, c'est dommage, elle serait bienvenue, mais ça reste compliqué. » Et puis finalement, je dis, ben, parlons-en en fait. Il y a des choses qui peuvent être prises en charge et tout ça. Et pour ça, je dois avoir un site communiqué très clairement là-dessus. Jusque maintenant, je me disais, ben, les gens n'ont qu'à poser la question, mais je me rends compte que ce n'est pas si simple. Et que surtout, ça dépend beaucoup des gens qui travaillent. Il y a beaucoup de bénévolat et ils n'ont pas toujours le temps de prendre en charge cette question d'accessibilité des salles, donc ça veut dire qu'il faut une toilette, etc. Et comme les pouvoirs publics ne le font pas, donc ça dépend un peu. C'est presque un acte militant, quoi.
Ouais.
Et maintenant, avant, j'étais un peu, c'est normal, mais maintenant je me rends compte que c'est vrai que c'est un acte militant. Et maintenant, je le dis, c'est un acte militant aussi. Il ne suffit pas de dire, ouais, c'est chouette votre parole, accompagner cette parole en programmant, parce que vous ferez partie du processus aussi. Et ça, je trouve que, en tout cas maintenant, je mets une énergie, ça me prend beaucoup d'énergie émotionnelle.
Oui, mais c'est une rage aussi qui commence à monter et
tout
qu'il faut refaire quelque chose avec
tout
ça.
Tout à fait. Mais je vois bien que maintenant, quand je raconte, c'est au cœur aussi de plus m'excuser de qui je suis, quoi. C'est comme ça.
On fait société ensemble ou pas?
Exactement. Et surtout qu'avec il y a beaucoup de discours inclusion et patati patata, et ça n'a jamais été aussi compliqué, quoi.
Mais surtout qu'il y a, ça ne se sait pas, mais il y a encore pour l'instant des assos, des structures, des services pour les personnes à mobilité réduite qu'on peut convoquer, inviter, qui sont payants ou pas, qui sont disponibles ou pas, bénévoles ou pas. Il y a des choses qui existent et les gens ne sont pas informés de ça.
Petit bémol, parce que pour souvent, il faut payer ça. Et pour ça, en fait, on peut effectivement demander de l'argent pour l'accessibilité, c'est-à-dire faire des dossiers. Et donc, c'est très chronophage.
Donc, faire des dossiers pour avoir une association qui vient aider à accueillir des personnes qui ont besoin d'un service particulier, c'est payant, mais ça peut être remboursé par un subside si on prend la peine de faire des dossiers chronophages.
Et donc, c'est un peu absurde parce que toutes ces associations sont subventionnées. Il suffirait d'en avoir une qui soit au service et qui soit gratuite pour tout le monde. Et alors du coup aussi, comme il y a les normes compliquent parfois, c'est bien qu'il y ait des normes, mais du coup parfois les normes sont hyper compliquées, parce que si on prend toutes les normes, ça paraît oh là là, mais on n'y arrivera jamais, quoi.
Et puis tout le monde n'a pas les mêmes besoins en termes d'accessibilité.
Exactement. Mais c'est toutes des questions mais par exemple, j'ai été membre de l'équipe artistique de Conte en balade. Et donc, je disais, il faut quand même que les balades qu'on organise, je puisse pouvoir. Et tout le monde était d'accord, mais ça a mis quand même quelques années
à ce que ce soit
systématique.
Et que ce soit systématique, que chaque fois ce soit par discuter, que c'est... Ça, on ne discute plus. La question, c'est comment on fait. Et la question n'est pas est-ce qu'on le fait cette fois-ci
oui,
ou pas.
Oui, oui.
Et voilà. Et donc ça, je le dis parce que c'est quand même grâce à Muriel Durand qui a dit à un moment donné, on ne discute plus comme ça. Et c'est vrai qu'une fois que la décision est prise, plus personne ne discute.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, c'est l'enfer quand même, hein, dit de trouver tous les lieux. Et après, évidemment, quand il dit ça à moi, il fait. Mais enfin, évidemment, par rapport à tout ce que tu veux au quotidien, ça n'a rien à voir. Donc, ça m'a fait rire. Ouais. Je dis, c'est chouette que vous vous rendez compte à quel point rien n'est accessible.
Ouais.
Et donc, ça fait aussi partie de la chose. Donc, finalement, ça me passionne aussi. Donc, il y a une part de trucs où c'est énergivore. Et puis, une part aussi où on voit que les gens, une fois qu'ils se rendent compte, ils sont partie prenante.
En fait.
C'est ils disent, ah ben oui, c'est dingue. Et ils se rendent compte, en fait. C'est tout simple, en fait. Mais voilà. Et donc, on vendra nos spectacles. On a un spectacle où on est à nos deux maris.
Un duo.
Plus un trio.
Un trio. Avec Evelyne.
Evelyne DeVeuse qui traduit en langue des signes, qui est une langue qui, elle, c'est sa langue comptée. Bon, elle est entendante, mais elle, comme elle n'a jamais... Elle travaille vraiment dans ce qui est récit et tout. Donc, elle a une langue très poétique, qui n'est pas de la traduction littérale, mais voilà.
Et donc, c'est une conteuse, quoi.
Voilà, c'est une conteuse.
Elle a développé sa propre langue comptée à travers la langue des signes francophone.
Et donc, là, c'est super intéressant de voir comment on construit des images ensemble. Donc... On nous signale que le spectacle de 4 heures va commencer.
Ah.
Il est 55.
Ah oui, on doit y aller.
Il y a le temps de se mettre en route, oui. Votre coach est là. Bonjour Hélène Désirant. Alors, on pourrait parler pendant hyper longtemps, mais c'est pour ça qu'on vous a fait revenir depuis ce matin. Vous pourriez encore revenir ce soir. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça a ouvert énormément de pistes.
Merci Karine et Christine. Merci.
Marie Theis, Christine Normand. Hélène Désirant et Nathan Buck à la technique.
Oui, merci Nathan.
À bientôt les amis.
Merci à Karine.
Merci. Oui.